aux États-Unis depuis 9 ans. Je suis venue aux États-Unis comme une étudiante internationale, donc avec un visa de manière légale. Et tout au long de ces 9 années, j'ai vu comment l'immigration a évolué aux États-Unis, de l'administration de George Bush, en passant par le président Obama et aussi maintenant le président Trump. On se rend bien compte que les lois d'immigration ont beaucoup changé. Nous avons maintenant une administration républicaine au pouvoir qui est vraiment basée sur avoir les flux limités et plutôt régulariser les flux migratoires. Mais en général, les lois de l'immigration restent encore les mêmes. Et de ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas facile, c'est beaucoup complexe et c'est un cercle vicieux aussi souvent. Et nous avons beaucoup d'immigrants venant des quatre coins du monde qui se sentent perdus dans ce système qui est vraiment beaucoup complexe.
Alors, je rappelle que les États-Unis ont 11 millions d'immigrés clandestins. Une grande partie fait partie de la communauté latino, avec la moitié qui représente les Mexicains. Saloumba Chérif, la Guinée, pour revenir à votre cas, celui de la Guinée, est-ce qu'elle refuse de coopérer avec le gouvernement américain ?
Bonsoir bien madame, je commencerai tout d'abord par saluer les millions d'auditeurs de la grande télévision qui est la Voix de l'Amérique. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau avec d'autres intervenants. Mais comme vous le savez, depuis la semaine passée, nous faisons cas de plusieurs choses dans les médias où tout le monde parle aujourd'hui de la Guinée, de la Sierra Leone, de l'Érythrée et du Cambodge. Donc, pour ce qui est de la sanction qui vise la Guinée aujourd'hui, c'est bien vrai que ces autorités ont contacté les autorités guinéennes, mais comme vous le savez, tout pays, il y a eu un pacte qui a été signé entre la Guinée et les États-Unis. Donc aujourd'hui, on parle de sanctions parce que les autorités guinéennes ici n'arrivent pas à livrer les documents dont les Américains demandent, parce qu'il y a des conditions qui ont été posées, telles que l'identification de personnes arrêtées ici sur le territoire guinéen, qui pour prouver que vraiment ils sont guinéens, si ces vérifications sont faites et que ces personnes sont des Guinéens, oui, les autorités guinéennes n'ont pas de problème à prendre ces citoyens en Guinée. Donc, voici la différence qui existe actuellement entre le gouvernement américain et celui de la Guinée. Et je pense qu'on parle beaucoup dans les médias, mais le cas guinéen n'est pas spécifié exactement pourquoi la Guinée refuse de prendre certaines de ces personnes qui sont arrêtées, qui se font appeler Guinéens.
Donc vous voulez dire qu'il y a des personnes qui simulent une identité qui n'est pas la leur, c'est ça ?
On a des cas pareils où des personnes sont arrêtées à cause de leur nom, ils sont identifiés seulement par leur nom et on les fait appeler Guinéens. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique de l'Ouest, spécialement la Guinée, le Sénégal, le Mali, tous ces pays, c'est des pays qui partagent les mêmes noms. Par exemple, vous pouvez trouver un camarade qui est guinéen, un camarade qui est sénégalais, léonais ou libérien même. Donc, on a reçu des cas pareils où l'ambassade a dit, écoutez, il y a le ministère des Affaires étrangères guinéen qui va envoyer une délégation d'identification de ces personnes qui sont arrêtées pour prouver vraiment, réellement qu'ils sont guinéens. Si tel est le cas, il y a toutes les vérifications qui sont faites, qui prouvent qu'ils sont guinéens, nous n'avons pas de problème.
Alors, toutes les vérifications peuvent être faites. Je vous interromps pour pouvoir donner la parole à Bibi Moussafiri qui vient d'arriver. Elle est avocate, spécialiste en droit d'immigration et également en droit d'affaires internationales. Alors, bonsoir. J'ai envie de vous demander tout de suite, dans les cas qu'on vient d'indiquer, quand une personne fait une simulation d'identité, qu'est-ce qui peut être fait concrètement par le gouvernement américain ?
Je n'ai pas bien compris la dernière partie de votre question.
Alors, ce qui se passe, c'est que la Guinée est embêtée parce qu'elle refuse de coopérer avec le gouvernement américain. Est-ce que, selon vous, c'est justifié ? Comment vous voyez cette situation ?
Il y a effectivement, dans le domaine d'immigration, beaucoup de fraudes. Et c'est un problème pour le gouvernement américain, qui doit user de plusieurs façons pour pouvoir identifier les personnes. Et en fait, même si une personne est arrêtée, et qu'elle déclare une nationalité telle que guinéenne, tant que cette identification ne peut pas être prouvée par le pays contreparte, cette personne ne peut pas être déportée non plus. Donc il y a effectivement beaucoup de problèmes et c'est un problème qui se règle entre gouvernements en général.
Alors, est-ce qu'on a les chiffres des immigrés illégaux venant d'Afrique ? On connaît à peu près la part de ceux qui viennent d'Amérique latine. Est-ce qu'on a les chiffres pour les ressortissants africains ?
C'est plutôt très difficile, mais je dirais que les données dans les études ne sont pas claires là-dessus, ne citent pas souvent les immigrés africains qui seraient illégaux. Mais si on doit estimer par rapport à tous les autres éléments, d'abord le fait qu'il y a beaucoup moins d'immigrés africains parce qu'ils doivent venir par un port ou ils doivent venir maritime ou aérien. Donc à un certain moment, ils viennent toujours avec un certain visa, que ce visa soit bien acquis ou mal acquis, ils entrent et ils ont été inspectés en fait. Et à ce moment-là, ça réduit les possibilités d'illégalité. Ce qui se passe avec les Africains souvent, l'illégalité est dans le cadre de ceux qui overstay. Ça veut dire qu'ils restent au-delà du nombre de jours ou mois qu'ils ont été attribués par le visa. Et ça serait certainement un pourcentage beaucoup moindre que ceux qui viennent d'Amérique latine ou de Mexique, par exemple.
Alors, je me tourne vers vous, Salumba Chérif. Y a-t-il une psychose au sein de la diaspora africaine, plus précisément vers la diaspora guinéenne, avec les nouvelles mesures adoptées par l'administration Trump?
Oui, exactement, madame. Il y a une psychose qui s'est installée au niveau de la diaspora africaine ici, mais plus particulièrement celle de la Guinée. À partir du moment où ton pays est dans le collimateur, où tous les médias parlent de ton pays, je pense que il y a les autorités aussi qui ont leur focus sur la Guinée. Donc il y a une psychose qui s'est installée. Nous, en tant qu'organisation guinéenne ici aux États-Unis, raison pour laquelle nous avons pris des mesures pour éduquer notre communauté sur leurs droits et devoirs ici en tant qu'immigrants sur le territoire guinéen. Pas plus tard qu'au mois de février passé, nous avons organisé un symposium où il y a des avocats qui sont venus pour éduquer nos compatriotes sur comment ils doivent se comporter. S'ils font face à la police de l'immigration, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre? S'ils ont des lettres de déportation, s'ils ont reçu des lettres de déportation qui leur demandent de quitter le territoire américain, voici tant d'autres des mesures que nous avons prises pour protéger nos citoyens, mais pour les éduquer et aussi les aider à passer ces moments difficiles. Parce qu'ils sont là, il y a d'autres qui ne savent pas.
Alors je vais réagir sur ce que vous venez de dire par rapport aux droits et devoirs. Maître Moussafiri, on sait que certains illégaux sont en prison justement. Quels sont leurs droits puisqu'ils sont en prison parce qu'ils ont été découverts dans l'illégalité et on ne sait pas toujours où les rapatrier. Quels sont les droits de ces illégaux en prison ?
En fait, les illégaux, comme ceux qui sont légaux, ont des droits constitutionnels. En tout cas, ce gouvernement, ce système américain attribue, en tout cas, tout ce qui est humanitaire. Ce sont des personnes qui ont droit à avoir un avocat, à les représenter. Ce sont des personnes qui ont droit à un emprisonnement suivant les standards de ce pays. En général, il y a plusieurs organisations, même quand ces individus n'ont pas de famille, n'ont pas de personnes à l'extérieur de leur emprisonnement pour chercher de l'aide pour eux, il y a des organisations à but non lucratif qui, en général, sillonnent les prisons et les autres jails pour pouvoir effectivement s'enquérir des possibilités d'aider ces individus.
Tana Swadou, je reviens vers vous. Vous êtes employée pour une ONG américaine. Vous êtes arrivée sur le sol américain pour faire des études il y a 9 ans. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu un comportement exemplaire pour avoir droit à une régularisation? Bon, je rappelle aussi que vous venez d'un pays qui est la Côte d'Ivoire, qui a été plongé entre-temps dans une guerre. Qu'est-ce qui explique selon vous que vous êtes régularisée?
En fait, comme comme vous l'avez dit, j'ai été, je dirais plutôt chanceuse. Et aussi, cela vient du fait de mon éducation. Je suis venue ici avec un visa étudiant et j'étais inscrite en faculté de sciences politiques dans une université américaine. Donc, tout de suite, j'ai compris très vite le système et les lois d'immigration. Et malheureusement, vu que la Côte d'Ivoire en 2011 a sombré dans une crise politique, je me suis vue obligée d'appliquer pour l'asile politique. Et l'asile politique aux États-Unis, qui est appelé en anglais Asylum, c'est un système un peu plus complexe et particulier parce qu'il faut vraiment comprendre les lois d'asile politique et seulement dans des cas spécifiques que les applicants sont octroyés ce droit d'asile politique. Donc il fallait en 2011 que je prenne un avocat spécialisé dans l'immigration et surtout dans les questions d'asile politique. Et j'ai été octroyée ce droit d'asile politique et ça nous donne ici le droit de pouvoir rester sur le territoire américain pendant un an. Et après cette première année, maintenant, nous pouvons appliquer pour la résidence permanente. Donc, voilà comment finalement, 9 ans plus tard, je suis toujours en tant que sur le territoire américain légalement, mais maintenant sous le statut de résidente permanente. Et cela a été dû du fait que très vite, j'ai appris les lois d'immigration, j'ai mis de mon côté toutes les chances en prenant un avocat d'immigration et aussi... Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Lorsqu'on a des statuts d'immigrants aux États-Unis, il faut comprendre les responsabilités qui viennent avec.
Merci
pour ne
beaucoup.
Pas se retrouver dans des problèmes.
Merci beaucoup, Tana Swadou, pour votre témoignage. Vous avez été nombreux à réagir sur la page de VOA Afrique. C'est le cas notamment de Moussa Kongo du Burkina Faso. L'Amérique tire sa suprématie de l'apport des vagues d'immigrés successives, certains par leur cerveau, d'autres par la force de leurs bras. Mis à part les Indiens, personne, pas même Donald Trump lui-même, ne peut se prévaloir d'être américain de souche. Alors la question des immigrés doit être traitée avec beaucoup d'humanisme et de respect. Du côté du Tchad, nous avons également Rodrigue Rogoto. Pourquoi en Afrique nous sommes toujours indulgents? Le continent est rempli d'Américains qui se cachent derrière les ONG, le tourisme, les missionnaires, les militaires et on les accueille à bras ouverts parce qu'on a toujours l'idée de l'humanisme. Alors je vous reprends en plateau depuis New York. Pourquoi selon vous le gouvernement Trump durcit-il le ton en matière d'immigration? Maître Moussafiri.
Ah bon, je pense que à propos de Donald Trump, c'est une personnalité à part hein, et que il a campagne sur la question d'immigration et il se sent peut-être obligé de démontrer une certaine force être un peu plus dur dans la question d'immigration. Je ne pense pas qu'il s'agit du système qui aurait changé. Je ne pense pas que le Congrès américain aurait changé, malgré qu'il est toujours divisé sur la question d'immigration. Je pense que Donald Trump est en train de jouer la carte qu'il a jouée pendant sa campagne.
Donc il reste fidèle à toute sa campagne. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants après une courte pause.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vies africaines.
Vies américaines.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous.
Ensemble.
De retour dans ce Washington Forum, cette semaine, nous nous intéressons aux mesures du gouvernement américain concernant l'immigration. Certains décrets affolent les illégaux qui tentent de se rabattre vers d'autres solutions, comme fuir vers le Canada. Ce pays voisin prend de nouvelles mesures afin de freiner l'arrivée des demandeurs d'asile venant des États-Unis. Près de la frontière, une station de travail improvisée, faite de tentes et de planchers en bois, a été érigée afin de filtrer les arrivées. Récit de Pascal Serra.
À Saint-Bernard-de-la-Colle, dans la province du Québec, près de la frontière, des soldats canadiens montent des tentes afin d'héberger temporairement les demandeurs d'asile venant des États-Unis. La plupart des arrivants sont des Haïtiens dont le permis temporaire de séjour et d'emploi expire le 22 janvier. D'autres ont déjà reçu un ordre d'expulsion des États-Unis. Leurs chiffres ont grimpé d'environ 400 en mai pour atteindre 3800 au mois d'août. Les autorités canadiennes ont pris des mesures pour leur venir en aide dès leur arrivée.
Notre mandat à nous, c'est de monter les tentes, de mettre un plancher de bois rigide pour qu'il pleut, c'est plus confortable, de mettre de l'électricité à l'intérieur, à l'extérieur des tentes, de mettre du chauffage pour la nuit qui vont commencer à être un peu plus fraîches. Et par la suite, nos partenaires, comme l'Agence des services frontaliers, la Croix-Rouge, embarquent eux autres, ils mettent des toilettes, des douches, ils rendent ça plus confortable.
Les nouveaux arrivants seront éventuellement transférés à Montréal ou dans un établissement gouvernemental de la province de l'Ontario, où les fonctionnaires les aideront à trouver un logement plus adapté en attendant que leurs revendications soient prises en considération.
C'est un changement majeur dans ma vie. Je n'ai connu que les États-Unis depuis ma jeunesse. Je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté.
En vertu d'un accord entre le Canada et les États-Unis, les demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis peuvent être envoyés une fois arrivés au point de contrôle des frontières canadiennes et sont priés de faire une demande de statut de réfugié aux États-Unis. Mais cette règle ne s'applique pas aux personnes non contrôlées qui ont néanmoins atteint le sol canadien. La frontière entre le Canada et les États-Unis est la plus longue au monde. Il n'y a pas de clôture le long des vastes étendues de forêts denses et de terrains montagneux. Par conséquent, la sécurité est relativement faible.
En direct de New York, Hugues Sanon nous a rejoint. Il est activiste et président de l'ONG Together for Haiti. Et toujours avec nous, l'avocate Bibi Moussafiri. Nous avons également ici, dans la capitale fédérale, en ligne, Saloumba Chérif, président de la communauté guinéenne de Washington, et Tana Assouadou en Skype. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Sanon. On vient de voir le cas des ressortissants haïtiens qui sont menacés. Est-ce que, selon vous, le Canada est une solution?
Et bonjour à tous, bonjour le monde. Et avant de répondre à cette question de grande importance, je tiens à présenter mes sympathies et mes solidarités aux habitants de Texas et de Louisiana qui sont frappés d'une terrible désastre naturel qui a fait des dégâts considérables. 22 personnes sont mortes et il y a la population qui sont délaissées. Et je peux dire, c'est ce genre de désastre naturel suivi par de multiples déstabilités politiques qui expliquent l'exode massif de tous ces Haïtiens et Africains un peu partout et vers d'autres pays sœurs. Maintenant, nous avons un nombre d'Haïtiens à Montréal, au Canada, qui laisse les États-Unis sous la menace de Donald Trump de le faire retourner en Haïti. Ils recherchent un refuge. Et plus que Canada est un pays stable, Canada
est un pays structuré. Est-ce que vous pensez que le Canada peut accueillir tous les immigrés haïtiens qui veulent se retrouver en sécurité par rapport à l'administration Trump?
Mais oui, je pense que le Canada peut accueillir plusieurs milliers haïtiens, millions haïtiens et d'autres, puisque Canada, après la Russie, est à plus grande superficie dans le monde et Canada est stable socialement, financièrement, et Canada a une habitude de recevoir plusieurs milliers de réfugiés. En 1950, Canada a donné refuge à environ 37 000 Hongrois et 60 000 Soviétiques. Et Canada a récemment recevoir environ 30 à 40 000 Syriens. C'est-à-dire que Canada a de grandes habitudes, Canada a un cœur humanitaire, et je me souviens, quelques années, le Premier ministre Justin Trudeau a fait une invitation.
Alors,
pour
tous
ceux qui ont
des
difficultés.
Vous pensez que donc toute la communauté haïtienne peut se rendre au Canada? Vous êtes très très impliqué, on sait que vous êtes rendu à Haïti, au Canada à plusieurs reprises. Comment vous pensez que cela est possible? concrètement?
Je ne veux pas encourager la communauté haïtienne de se rendre et à Canada ou aux États-Unis. Je veux les encourager à stabiliser le pays, à travailler de sorte que Haïti soit stable pour supporter ses habitants. Cependant, je pense que Canada peut accepter, peut donner de refuge à ces 3400 Haïtiens qui sont déjà sur le terrain.
Alors, le Canada peut recevoir ceux qui sont déjà sur le terrain. Ça y est, on a vraiment entendu. Mais comment interpréter la décision de l'administration Trump de ne pas renouveler les TPS pour les quelques 60 000 Canadiens? Je pose la question à Bibi Moussafiri, notre avocate qui est avec vous en plateau. Je rappelle que c'est le statut de protection temporaire.
Oui. Et évidemment, comme il se nomme statut temporaire, ça veut dire qu'il y a toujours une finalité. Il est octroyé de façon temporaire jusqu'à ce que, en fait, le gouvernement qui l'a octroyé décide que les conditions sur lesquelles elles étaient posées n'existent plus. Alors, c'est à savoir si le Canada, l'Haïti, effectivement, en ce moment, est à même de recevoir ceux qui ont été protégés pendant le temps qu'ils étaient en tourment. Et c'était des catastrophes naturelles. Et ça devrait pouvoir être une estimation, pas seulement des États-Unis, mais une estimation générale. Et si ces ressortissants doivent maintenant se rendre au Canada, c'est peut-être parce que Haïti n'est pas encore en mesure de recevoir les ressortissants haïtiens.
Oui, évident, Haïti n'est pas encore en mesure de les recevoir. On va poursuivre le débat, mais avant, nous allons voir d'autres commentaires postés sur notre page Facebook. Nous avons Guillaume B. Valentin qui nous vient du Tchad. Le problème des migrants est une question très pertinente pour les dirigeants africains. Ils doivent se remettre en question vu la malgouvernance, les guerres civiles, la famine qui poussent les gens à partir. Si le gouvernement Trump les expulse, où vont-ils se rendre? Donc on voit bien que cette question de où se rendre est vraiment très très importante. On va redonner la parole également à nos autres invités. Nous avons avec nous le représentant de la communauté guinéenne. Donc, est-ce que finalement tous ces ressortissants peuvent repartir en Guinée ou dans d'autres pays en Afrique? Et surtout, ces ressortissants, quand ils sont là, quelle bonne conduite à avoir pour ne pas être embêtés?
Vous savez, d'abord, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui est derrière l'immigration? C'est pour trouver solution à ça, je pense que nous devons aussi voir le côté économique. Parce que c'est un problème économique d'abord qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette affaire d'immigration dont tout le monde parle. Ces Africains qui quittent l'Afrique pour venir ici, ils viennent chercher, viennent s'installer pour préparer une meilleure vie à leurs enfants, pour leurs enfants et leurs familles. Donc c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Africains. Nous devons, quand nous venons ici, nous devons respecter les lois américaines. Parce que quand un pays t'accueille, tu es obligé de respecter ses lois. C'est comme quand tu rentres dans une maison, tu dois respecter les lois de cette maison. Mais aussi, les chefs d'État africains doivent aussi travailler. Nous avons une part de responsabilité où nos chefs d'État doivent travailler pour que nous puissions rester chez nous. Voici ce problème que nous faisons face aujourd'hui.
Alors, on va bientôt rendre l'antenne et on a entendu, il faut avoir un comportement exemplaire lorsqu'on est sur le sol américain. Maître Moussafiri, un dernier mot concernant le comportement à avoir pour ne pas être embêté justement par l'administration Trump quand on est en situation d'illégalité.
D'abord, il faut préserver le visa avec lequel vous entrez aux États-Unis. S'il est temporaire, il faut essayer de ne pas rester au-delà et peut-être d'avoir une autre chance pour revenir suivant les buts de la personne. Ensuite, en fait, il faut se mettre tout à fait en dehors de tout ce qui est estimé criminel aux États-Unis. By the way, excusez-moi de terme.
Vous dites by the way, et en plus c'est bientôt le moment de se quitter. Donc avoir un comportement exemplaire, avoir peut-être la chance de se faire sponsoriser par votre travail, autant de solutions que nous allons pouvoir débattre sur notre page Facebook de VOA Afrique. C'est la fin de cette émission. C'était Ekia Badou en votre compagnie. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à la RTI qui diffuse Washington Forum en Côte d'Ivoire.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jemina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.